Radio Kapi. Le journal Pascal Masirika.
À la une ce midi à Beni, des doutes planent sur la mort de 9 jeunes partis à la recherche des corps des victimes de la récente attaque de la localité de Tchani Tchani par des rebelles ougandais de la DEF. Des précisions dans ce journal. Au sud Kivu, plus de 260 déplacés de Goma qui étaient pris en charge par le gouvernement provincial sont rentrés hier mercredi après-midi au nord Kivu. Ils ont été embarqués hier dans des bateaux avec des vivres et des non-vivres. Notre invité, c'est le ministre provincial de la Santé publique du Haut-Katanga, Joseph Nsambi Boulanda, parle du relâchement des gestes barrières en ce moment où la pandémie du coronavirus a coûté la vie à une trentaine de personnes. Madame, messieurs, bonjour. À Beni, des doutes planent encore sur la mort ou non des jeunes partis à la recherche des corps des victimes de la récente attaque de la localité de Tchani Tchani par des rebelles ougandais de l'ADEF. Si les uns estiment que ces jeunes sont retournés à Oicha, d'autres sources disent par contre que cette nouvelle n'est pas à confirmer. On fait le point de la situation avec vous, Marc Marofimo.
Les sources locales indiquent que ces jeunes étaient partis pour la deuxième fois pour tenter de retrouver les victimes du massacre de Tchani Tchani le mardi dernier et qu'ils ne sont toujours pas revenus. Selon un membre de la société civile de Tchani Tchani qui a préféré garder l'anonymat, ces jeunes au nombre de 9 qui ont traversé les rivières Mutuei et Samboko avant d'arriver à Tchani Tchani sont partis pour ne plus donner des nouvelles. Ainsi, si certains pensent qu'ils sont tombés dans les filets des EDF, d'autres indiquent que ces jeunes parmi eux qui étaient partis avec des sacs mortières sont revenus avec les corps des victimes de Tchani Tchani à Oicha où ces derniers vivaient. Nos efforts pour avoir les porte-parole de l'armée n'ont pas abouti. Pour rappel, l'attaque de la localité de Tchani Tchani dimanche, lundi et mardi dernier a fait un total de 13 civils tués à l'arme blanche et à feu. Certains corps en décomposition ont été enterrés sur place tandis que d'autres ont été amenés et déposés par des jeunes volontaires à la morgue de l'hôpital général de Oicha. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
État de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les FRDC sont déterminés à neutraliser toutes les forces négatives. Déclaration faite mercredi soir à la presse par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, conjointement avec les porte-parole des FRDC et de la police nationale. Le compte-rendu de Paul Matendo.
Au cours de ce point de presse, Léon Richard Kasunga, porte-parole des FRDC, a présenté les performances réalisées jusque-là dans le Nord Kivu.
Nous avons contrôlé et occupé toutes les places fortes de l'ADEF. Nous avons neutralisé 35 ADEF, dont 14 étrangers. Nous avons capturé 5 leaders de l'ADEF. Nous avons appréhendé 70 collaborateurs.
Des juridictions militaires sont déjà installées, a indiqué Piero Manaputu, porte-parole de la police nationale congolaise.
Le tribunal militaire de garnison situé à Beni, les animateurs ont été instruits de vider la saisine des dossiers puis en délibérer sans plus. Au niveau de Goma, il y a la cour militaire et le tribunal militaire de garnison, mais au niveau de l'Ituri, il a été procédé à la création d'une cour militaire ordinaire.
Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, lui appelle la population à collaborer avec les FRDC.
Nous encourageons tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans les zones opérationnelles, de collaborer. Aucune armée ne peut remporter une guerre si elle n'a pas le total soutien de sa population.
Les 14 étrangers capturés sont des nationalités, entre autres ougandaises, burundaises, rwandaises et même éthiopiennes, a souligné Léon Richard Kasunga.
Paul Matendo sur Radio Kapi. Et puis l'Ituri est devenue la principale province de la RDC en termes de besoins humanitaires. Propos tenu hier mercredi après-midi à Bunia par le coordonnateur humanitaire adjoint de l'ONU, Diego Zoria, qui vient d'achever une visite de 48 heures, a redit sa préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire dans cette province. Il a attiré l'attention de la communauté internationale sur les besoins toujours croissants causés par des conflits armés qui ont jeté dans les rues près des 1 700 000 personnes sans assistance. Pour lui, la solution pour remédier à cette crise passe par la cohabitation pacifique entre le peuple. Il le dit au micro de Jean-Claude Lokidile.
Et la raison pour laquelle je viens, c'est justement pour attirer l'attention de la communauté humanitaire et au-delà de ça, l'attention de tout le monde sur les besoins humanitaires grandissants d'une population extrêmement vulnérable en Ituri et aussi sur le besoin de trouver des solutions durables aux causes profondes qui continuent à déchirer des communautés qui devraient vivre ensemble avec une réponse humanitaire qui est insuffisante parce qu'on manque de ressources, on manque d'accès, des fois on se fait attaquer. On a des difficultés liées à la sécurité, la logistique dans ce pays est très 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 difficile. Prioriser dans ses besoins est toujours très très difficile parce que malheureusement il y a la pauvreté aussi qui sévit. Fondamentalement ce qu'il faut c'est apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre à partager, c'est apprendre à construire ensemble, non pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre et comprendre que l'unité, la pamoja en fait fait la force et non pas la division et la destruction et la guerre comme on voit malheureusement sévir trop souvent au Congo.
Notez que Diego Zoria quitte la RDC pour le Yémen. Le trafic illégal d'armes et de minerais est la source de l'instabilité dans l'est de la RDC. Déclaration faite par la chef de la MONUSCO à l'ouverture des travaux de réflexion sur le plan d'action de la stratégie régionale des Nations Unies pour les Grands Lacs. Ces travaux se tiennent ici à Kinshasa du 9 au 10 juin 2021 sous la direction de l'envoyé spécial Xi Yang. Madame Bintou Keïta reconnaît cependant qu'il existe en RDC et dans la région des Grands Lacs des opportunités pour la stabilisation de l'est du pays et le renforcement des relations entre les pays de la région. Ces propos ont été recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Je salue la détermination et l'engagement du président Félix Antoine Tshisekedi à consolider la paix, la coopération économique et les relations de bon voisinage dans la région des Grands Lacs. La mise en œuvre de la stratégie régionale doit aider à donner un nouvel élan à la coopération régionale, tant au niveau politique, économique que sécuritaire, notamment à travers une meilleure gestion des frontières communes, la mise en œuvre de partenariats non militaires pour soutenir l'éradication des groupes armés, ainsi que la lutte commune contre le trafic illégal d'armes et de minerais, source majeure d'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo.
On passe maintenant au Sud Kivu où plus de 260 déplacés de Goma qui étaient pris en charge par le gouvernement provincial sont rentrés au Nord Kivu. Ils ont été embarqués hier mercredi dans des bateaux avec des vivres et des non-vivres. La deuxième vague concernera les déplacés qui sont encore dans des familles d'accueil. À Bukavu, explication d'Emmanuel Elemejo Kabidi.
C'est 264 personnes qui ont embarqué à bord du bateau loué par le gouvernement provincial en direction de Goma. Elles ont été d'abord transportées à bord des bus du gouvernorat depuis le site de Hadi Kivu de Kavumu jusqu'au port lacustre de Bukavu. Le gouvernement provincial affirme avoir pris des dispositions pour que ses compatriotes regagnent Goma en toute sécurité. En dehors des frais de transport, chaque foyer a reçu 2 sacs de farine, 2 sacs de maïs, des savons, des litres d'huile ainsi que de matelas et couvertures. Le ministre provincial des Affaires humanitaires affirme en plus que chaque ménage a reçu également une somme d'argent pour aller recommencer une nouvelle vie à Goma. Pour l'instant, le gouvernement provincial du Sud Kivu dit s'atteler à recenser les autres déplacés de Goma qui étaient dans les familles d'accueil, surtout en territoire de Calais, sur la route de Minova. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où le gouvernement congolais vient d'accorder des vivres et des non-vivres à 100 000 sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo. La distribution a commencé ce jeudi matin par le site de l'école primaire Kaembe en territoire de Nyiragongo. Cette distribution coïncide avec le retour des déplacés facilité par un appui en transport du gouvernement. Selon le coordonnateur du service provincial de la protection civile, cette assistance est remise aux déplacés à leur embarquement pour le retour, alors que ceux qui sont déjà à Goma vont le recevoir dans leur quartier respectif. Joseph Makundi le dit à Bernard Danyangi.
J'ai trouvé déjà au moins 50 camions qui sont déjà stockés avec le vivre. Il y en a en moyenne 300 sacs par camion, soit des maïs, soit des riz. Je rassure que tous les sinistrés, chacun va avoir son kit de retour du côté du gouvernement congolais. Pour la gestion d'une catastrophe naturelle, toute personne qui fouille à cause d'une catastrophe naturelle, on l'appelle sinistré. Il est vrai, en organisant les retours de sacs, on n'a pas directement remis les vivres. C'était un essai que je faisais pour voir est-ce que ça peut être flexible. Mais je viens de voir qu'il faut que j'essaie avec Nyiragongo. Je donne directement le kit. Tout le monde part à la maison avec son kit. Parce que j'ai trouvé que ceux qui sont arrivés chez eux n'avaient pas à manger quand on a quitté Sake. Là, je suis obligé de revenir pour eux en urgence pour qu'eux aussi puissent recevoir dans les 48 heures leur kit alimentaire. Les sinistrés dans les maisons ont été traversés par le tremblement de terre, sont traités au même titre que les sinistrés dont les maisons ont été calcinées par la coulée de lave.
Joseph Makundi ajoute que l'identification des sinistrés dont les maisons avaient été englouties par la lave est en cours. Ils seront installés d'ici 3 mois dans un site provisoire en cours d'aménagement à Kanyaruchinya. Justice à présent, un nouveau réquisitoire du parquet général de la République a été déposé au Sénat ici à Kinshasa. Cette fois-ci, il s'agit d'Alexis Tambwe Mwamba et d'Éric Roubouyé qui sont visés par le procureur près la Cour des cassations. C'est pour obtenir la levée des immunités du président et du questeur honoraire du Sénat poursuivi pour détournement de plus de 3 millions de dollars américains de l'argent qu'ils avaient retiré du compte de la Chambre haute du Parlement congolais. C'est ce que nous raconte Michel Kifindangoy.
Alors qu'un réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle sollicitant la levée des immunités d'Augustin Matata Mponyo est encore en cours d'examen au Sénat, un autre vient de tomber. Le procureur général près la Cour de cassation demande la levée des immunités d'Alexis Tambwe Mwamba et Éric Roubouya en vue de l'ouverture d'une instruction judiciaire à leur encontre pour détournement des deniers publics. La lecture du dit réquisitoire a été faite au cours de la plénière d'hier mercredi au Sénat. Si Augustin Matata Mponyo, ancien Premier ministre, est poursuivi dans le dossier Bukanga-Lonzo, Alexis Tambwe Mwamba et Éric Roubouya sont accusés de détournement de plus de 3 millions de dollars retirés du compte du Sénat. Notez que ce même réquisitoire a été introduit en janvier dernier à la veille de la chute du bureau Tambwe Mwamba. L'ancien président du Sénat a déjà fait l'objet d'une plainte classée sans suite déposée par la sénatrice Bijou Goya qui l'accusait notamment de détournement des fonds dans la réhabilitation de la salle de la plénière du Sénat, dont les travaux s'élèveraient à 4 millions de dollars américains.
Merci Michel Kifindangoy pour ces précisions. L'actualité, c'est aussi le lancement hier mercredi à Kindu de la campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre la troisième vague du coronavirus au Maniema. Le jeune professionnel de l'UDPS sensibilise les élèves et les fidèles des différentes confessions religieuses. À Kindu, une correspondance de Florence Kizalunga.
Après avoir été formés par la division provinciale de la santé, les jeunes de l'AGPRO se lancent dans la sensibilisation. À l'école Enano des Frères Maristes, ces jeunes ont rappelé à plus de 1000 élèves de cette école l'existence de la pandémie en province et la nécessité de respecter les mesures pour stopper la propagation. Maxime Kianga est leur président.
À l'heure actuelle, nous avons 23 348 cas, quelque chose qui stimule encore notre association pour sensibiliser les milliers scolaires. Et après les écoles, on pourrait aller dans les églises, des mosquées, des marchés et autres endroits publics pour que nous puissions diminuer tant et soit peu cette maladie.
Le premier bénéficiaire de ces enseignements se sont déclarés satisfaits et promettent de continuer à respecter les mesures de protection.
J'ai retenu de la science qu'il faut respecter les mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19.
Après cette sensibilisation, nous allons toujours respecter ces mesures barrières-là afin que la pandémie ne puisse pas continuer ici chez nous.
Signalons qu'à ce jour, la province de Maniema compte 65 cas de Covid-19. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, après le président de la transition mardi dernier, la délégation de la CEDEAO a échangé hier mercredi après-midi à Bamako avec le Premier ministre. La nomination d'un chef du gouvernement civil a été exigée par l'organisation régionale. Choguel Kokala Maïga et la délégation qui était conduite par l'ex-président Goodluck Jonathan ont parlé de la feuille de route de la transition dont l'objectif est le retour des civils au pouvoir. Et puis l'Allemagne, l'ancienne puissance coloniale, a rejeté en bloc les demandes de réparation qui ont été formulées par la Namibie pour les massacres qui ont été commis entre 1904 et 1908. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, affirme que l'aide financière déjà proposée par son pays sur la base du volontariat n'était pas du tout fondée sur une base légale, d'où la raison de ce rejet.
L'invité.
Notre invité, c'est le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi Boulanda, fait le point de la situation en ce moment du relâchement des gestes barrières dans cette province et qui compte plus de 2160 cas et une trentaine de morts. Plus de 5600 personnes ont déjà été vaccinées. Les variants indiens et sud-africains circulent dans la province. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est l'état de la COVID-19 dans la province du Haut-Katanga au moment où on parle de plus en plus de la troisième vague?
Dans la province du Haut-Katanga, nous connaissons une accalmie presque relative en termes de flambée. Nous continuons quand même à dépister de manière sporadique des cas de COVID, tantôt un cas, tantôt deux ou trois. Nous maintenons les efforts, la vigilance est toujours là, la surveillance s'est faite. Toutes les commissions sont toujours en état d'alerte. Nous continuons le testing à l'arrivée à l'aéroport international de Lubumbashi et à toutes les frontières. Donc, c'est vraiment des gages d'une bonne sécurisation de notre province. À ce jour, nous sommes à 2163 cas cumulés, 33 décès. Nous avons vacciné près de 5600 personnes. Nous multiplions les sites de vaccination puisqu'on est passé de 12 à 26. L'objectif est d'atteindre au moins 36 d'ici la semaine prochaine. Nous continuons la surveillance et la gestion des alertes. Nous disons à la population que cette troisième vague s'annonce très meurtrière et très invasive. Il faudrait que nous puissions rester alertes et multiplier des séances de sensibilisation comme nous l'avons toujours fait à travers les relais communautaires et les autorités politico-administratives. Le variant indien circule activement et le variant sud-africain. Donc, la population doit rester disciplinée pour éviter des contaminations massives qui peuvent paralyser notre vécu quotidien, notre économie. Nous demandons aux églises, à tous les responsables, de maintenir le respect strict des mesures barrières.
Mais paradoxalement, à votre souhait, monsieur le ministre, sur le terrain, c'est tout à fait le contraire que nous observons. Les deuils sont organisés dans des parcelles. À la morgue, c'est plein de personnes. Au cimetière, c'est plein de personnes. Dans les églises, n'en parlons pas. Au stade, nous en voyons également. Et un peu partout, on dirait que la COVID n'existait pas dans les Haut-Katanga au regard du comportement de la population.
On constate qu'il y a eu effectivement un relâchement. Cela est lié peut-être aussi à ce temps d'accalmie, mais nous voulons alerter encore une fois que la pandémie est toujours là. Le service médical ne surveille pas toutes ces cérémonies. Le gouvernement édicte des comportements à prendre et des comportements à éviter, mais la cité est quand même administrée. Il y a un maire de la ville et une police urbaine qui doit traquer les gens. Il faut respecter le couvre-feu. Les cérémonies funéraires, on les a déjà interdites. Les responsables des confessions religieuses doivent faire respecter la distanciation physique à l'église. Le port du masque doit être obligatoire et il faut qu'il y ait des points de lavage de mains. La police doit jouer son rôle avec le ministère de l'Intérieur et nous dépistons les cas, nous mettons tout ce qui est de notre compétence comme service de santé pour soigner et diagnostiquer les cas.
Il y a certaines écoles où on ne trouve même pas de dispositif de lavage de mains, les thermoflash n'existaient plus, et donc c'est un véritable relâchement, monsieur le ministre. Que faire dans ce cas?
Avec la capacité institutionnelle, nous avons donné des équipements à l'EPST. Les écoles privées sont obligées d'acquérir puisqu'ils font payer. Les écoles publiques reçoivent des subventions de l'État, mais les écoles privées qui font payer d'abord très cher doivent se prendre en charge sous la supervision, bien sûr, des services concernés. Incessamment, une vérification sera faite avec le ministre de l'Intérieur et nos services d'hygiène pour passer dans tous ces endroits à vérifier la présence ou l'absence de ces dispositifs. Et les récalcitrants seront traqués puisqu'il est de notre devoir comme gouvernement de protéger tout le monde. À part le service de santé, d'autres services doivent s'impliquer pour que la lutte soit effectivement multisectorielle.
Avant de terminer, Monsieur le Ministre, au niveau de l'université, il y a une trouvaille, belle, une louvainte. Est-ce que ce produit est déjà utilisé dans les cas de Covid ici à Lubumbashi?
Il est utilisé dans le cadre tout à fait expérimental. Il y a des malades qui reçoivent Bella Inilou, que ce soit aux cliniques et aux universitaires, et il y a des malades qui en ont reçu et nous sommes en train d'observer, mais apparemment ça donne quand même de bons résultats.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi Boulanda, interrogé par Jean Gandou. Et c'est la fin de cette édition d'information. Il est 12h20. Infiniment merci à Élisée Tchikota qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Martin Seboudjangwe. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi. Tout de suite, l'actualité sportive, le rendez-vous de Dieudonné Kabeyangalo. Voilà.